Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Age où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisé les nouveaux hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. Pour ce premier épisode, je suis avec Marie qui est sage-femme depuis presque 10 ans dans un centre hospitalier universitaire. Marie a 34 ans et elle va nous parler un petit peu de sa vocation de sage-femme et surtout de la façon dont elle perçoit son métier avec sa grande expérience du corps des femmes et de la maternité et de notions aussi très spirituelles comme la naissance, la mort et l'accompagnement dans ce rite de transition. Bonjour Marie.
Bonjour Clélia.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où vient ta vocation de sage-femme ?
Alors écoute, je crois que depuis que je suis toute petite, au fond, j'ai toujours voulu être sage-femme. Ça n'a fait aucun doute très très tôt. Il y a plusieurs événements qui ont fait que c'est devenu une évidence. Déjà, à l'âge de 6 ans, j'ai eu un petit frère, donc j'ai suivi la grossesse de ma maman. Et ça a été mes premières interactions finalement avec ce moment assez magique, peut-être la grossesse. Et puis au fur et à mesure au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai perçu dans ma famille, en fait, si tu veux, les liens qu'il pouvait y avoir de façon intergénérationnelle et puis le poids que la maternité représentait au sein de notre famille. Donc j'ai appris récemment au sein de ma propre famille que plusieurs femmes de mon entourage avaient vécu des interruptions de grossesse, des femmes qui me sont très proches. Alors ma marraine, qui a fait une interruption volontaire de grossesse qui était à l'époque encore clandestine puisque la loi Veil n'était pas passée. Et puis suite à cette IVG, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle est devenue stérile. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé si le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, ça m'avait donné à moi cette place privilégiée auprès d'elle. C'est pas anodin. La maternité n'a jamais été une chose évidente dans ma famille. Alors est-ce que je suis sage-femme par réparation ? C'est tout à fait possible.
En tout cas, quand toi, ta vocation de sage-femme, elle a émergé, t'étais pas du tout au courant de ces IVG, de ces secrets un peu de famille ?
Pas du tout, mais c'est comme si naturellement j'avais perçu que la maternité était lourde de sens pour les femmes. Et je te donne un exemple, mais dans nos vies, dans toutes nos vies, hein, qu'on soit homme, femme ou qu'on soit même non-genré, il y a des jours où t'as l'impression que ta vie bascule. C'est un peu le premier jour du reste de ta vie, tu vois. Et ça m'a fait ça à l'âge de 16 ans. J'ai eu besoin d'aller consulter, tu vois, une gynéco, une sage-femme. Alors à l'époque, bien sûr, je ne connaissais pas très bien le rôle des sages-femmes. Mais j'avais besoin dans ma féminité, je commençais, tu vois, à avoir une première approche de la sexualité. J'avais besoin de me sécuriser là-dedans. Et donc je suis allée au planning familial de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et ça a été ma première rencontre avec une sage-femme. Et ce jour-là a déterminé beaucoup de choses pour la suite. Parce que j'ai eu l'impression de faire un truc extraordinaire, du haut de mes 16 ans, me dire je vais aller poser les questions que je veux sur la contraception, j'ai besoin de prendre mon corps en charge, je ne veux pas subir certaines choses dans ma vie, sachant que je ne savais pas tout ça autour de moi dans ma famille, mais ça a été très vite très présent. Et c'était ma première rencontre avec une sage-femme. Donc je revois la petite étudiante sage-femme dans sa blouse rose à côté de la gynéco qui me regardait. Puis moi j'étais terrorisée parce que c'était mon premier examen gynéco. Et je me souviens de son regard bienveillant et puis cette validation qui est pour moi hyper importante auprès des femmes, de dire tu fais juste, tu fais bien de venir ici, on est là pour toi, pour te rassurer dans ta condition de femme et pour t'accompagner là-dedans pour que les choses se passent bien. Et en fait je me suis sentie super légère après ce premier rendez-vous au planning familial. Je suis sortie et en fait j'ai senti que c'était une deuxième vie qui débutait pour moi en tant que femme alors que j'avais que 16 ans.
Oh, voilà. D'accord, ah, c'est beau. Et donc cette espèce de validation et de sentiment d'appartenance à une communauté presque, tu n'as pas pu la trouver auprès des femmes de ta famille, enfin, ce n'est pas vers elles que tu t'es tournée en premier.
Quand même, il y a ma grand-mère qui a aussi une lourde histoire dans la maternité parce qu'elle n'a jamais pu être mère biologiquement. C'est ma grand-mère adoptive en fait. Elle a été un guide vraiment pour moi là-dedans. Elle aujourd'hui encore, elle continue à valider, à accompagner mes craintes de femme, de mère, et je la remercie pour ça. Mais c'était pas une famille où on avait un dialogue facile et bienveillant. Donc beaucoup de choses qui étaient un peu cachées, des informations que j'arrivais pas à trouver. Et puis j'ai très vite compris que notre corps de femme, il est assez exceptionnel. Par exemple, j'ai découvert le plaisir très très tôt. J'avais 8 ans quand j'ai senti que mon corps pouvait amener une source de plaisir fabuleuse. Et je me suis sentie hyper anormale. Anormale parce que ça se disait pas, que mes amis autour de moi n'en parlaient pas. Et puis qu'au sein de notre propre famille, on n'avait pas de dialogue à ce sujet. Donc très vite, j'ai compris que le corps était une source fabuleuse. Une source fabuleuse de vie, de plaisir, de toutes ces choses qui sont finalement pas nommées. Et même si je crois que je me suis un peu construite dans les injonctions sociales pour construire une famille, parce que bien sûr qu'il y a eu de ça, mon désir d'être mère après, il est né de façon très naturelle. Et j'ai réussi à faire la part des choses entre ce que la société nous impose en tant que femme et puis mes désirs profonds dans mon propre corps, moi, Marie, et qui n'est pas quelque chose d'applicable à toutes les autres.
Ouais. Et donc, tu es devenue sage-femme, pendant tes études de sage-femme, tu es toi-même tombée enceinte.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet état de transformation que tu as vécu au moment où toi-même, tu as eu une deuxième naissance en tant que sage-femme et en même temps en tant que mère?
Ça a été extrêmement compliqué pendant cette grossesse, même si sur le coup, je le vivais très très bien. Parce que je me construisais une identité professionnelle qui était quand même assez complexe. Et en même temps, je me construisais en tant que maman. Et j'avais 24 ans à l'époque. C'était pas considéré comme très normal. J'entendais autour de moi que cette grossesse en tant qu'étudiante, elle était pas très bien perçue. Et ça a renforcé encore plus cette idée qu'il faut laisser les femmes libres dans leur choix et qu'on doit les accompagner là-dedans au lieu de recréer encore des injonctions, genre une maman étudiante, c'est pas normal. Ben si, en fait, ça peut l'être. Et avoir un enfant à cette période, ça peut être aussi source d'une extrême force et puissance. Moi, j'ai senti que Manon m'avait portée dans mon projet d'être sage-femme. Parce que je l'ai fait aussi pour elle, je voulais aller au bout de mes études aussi pour elle. Je voulais qu'elle ait une maman pleinement épanouie dans sa profession. Je me suis dit, si j'arrête tout maintenant parce que je vais avoir un enfant, quel poids je vais faire porter à cet enfant? C'était pas du tout l'idée. Pour autant, la construction, elle est restée compliquée parce que je me confrontais à la naissance, à l'accouchement, aux difficultés que ça pouvait représenter pour certaines femmes. Et moi, j'allais passer là-dedans. Alors voilà. Il y avait de l'enjeu, parce que je me disais, une sage-femme qui accompagne les femmes dans la physiologie de la naissance, et notamment, par exemple, dans une naissance naturelle sans péridurale, elle doit elle-même pouvoir le faire. Et ça m'a mis une énorme pression, parce que j'ai cru que pour être une bonne sage-femme, il fallait que moi-même j'accouche, entre guillemets, bien, selon ma représentation. Ouais. Alors, j'aurais eu une césarienne pour je ne sais pas quel motif médical valable, j'aurais été tout autant légitime à être sage-femme. Les sages-femmes qui n'ont pas d'enfants sont tout aussi légitimes dans la profession et d'ailleurs sont d'excellentes sages-femmes parce que notre savoir n'est pas lié à notre propre maternité, mais à un savoir bien plus complexe des femmes. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame, c'est hyper important.
Ok, donc c'est une grossesse que tu as vécue de manière assez, entre guillemets, traditionnelle, puisque tu as accouché dans un milieu hospitalier, par la voie la plus classique. Pour autant, c'est une grossesse que tu as... Enfin, un accouchement, en tout cas, que tu n'as pas très, très bien vécu. Parce que tu as eu plutôt l'impression d'avoir été dépossédée de ton moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus et aussi pourquoi, à ce moment-là, tu as choisi d'accoucher par la voie plutôt traditionnelle?
C'était un peu un concours de circonstances parce que je déménageais, j'étais en plein dans mes prémices d'études de sage-femme. Donc l'énergie que je pouvais déployer pour trouver finalement un accompagnement alternatif, il était assez limité. J'ai pu à un moment me dire que j'allais accoucher en maison de naissance avec un suivi, puis tout s'est arrêté pour des raisons plus complexes d'assurance, mais... puisqu'en fait j'ai perdu mes droits à l'assurance maladie pendant ma grossesse pour des raisons un petit peu compliquées, donc c'était un peu chamboulé sur le plan administratif, mais la voie de l'hôpital m'a paru finalement sur la fin de la grossesse beaucoup plus simple. C'était difficile parce que j'ai même pas visité la salle d'accouchement, je savais pas quelle sage-femme j'allais rencontrer, et en fait j'ai réalisé que ce point était finalement le centre de tout. Être accompagnée par des gens qui te connaissent pas, c'est en fait un non-sens. C'est un non-sens et c'est peut-être le point d'honneur que je mets tous les jours dans mon travail. C'est d'arriver à créer un lien de confiance assez rapidement pour qu'on se connaisse quand même un petit peu. Alors j'ai réalisé à plein de moments dans ma carrière que ça faisait défaut, que l'hôpital ne permettait pas finalement un accompagnement avec une sécurité émotionnelle parce qu'en fait on ne se connaît pas. Et c'est toujours pour moi une angoisse quand j'ouvre la porte et que je découvre un couple sans connaître leur histoire et que le travail est assez avancé. En fait, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Mmh. Et eux, ils ne savent pas à qui ils ont affaire non plus. Donc le lien, il est... parfois très très difficile à établir. Et c'est ce qui m'a manqué pour ce premier accouchement, même si j'ai eu une sage-femme extrêmement bienveillante au moment de la naissance de Manon. Pour autant, c'était un accouchement compliqué parce que beaucoup de charges de travail à l'hôpital, un accompagnement quand même décousu. J'ai eu l'impression en fait que l'accouchement se passait mal par l'hôpital, en fait, que j'ai pas pu mobiliser avec une péridurale. J'ai remis la faute sur l'hôpital. Et puis l'histoire s'est réécrite d'une façon assez semblable pour ma petite Cléo il y a 4 ans. Et j'ai compris qu'en fait, les choses étaient aussi très liées à moi et pas seulement à l'environnement, parce que le scénario a été identique alors que j'avais une sage-femme qui me connaissait, que j'avais pas de péridurale, et pour autant le scénario a été strictement identique. Donc voilà, j'ai mis en évidence à cet accouchement-là que en fait, j'étais ma première ennemie. C'était une lutte contre moi-même à ce moment-là, parce que l'issue de la naissance, elle allait conditionner aussi ce que j'étais en tant que sage-femme. Et j'ai essayé maintenant, enfin j'ai réussi, je pense, à faire la part des choses. Et j'ai arrêté de me dire que parce que j'ai eu des accouchements difficiles, des accouchements compliqués, que je ne pouvais pas être une bonne sage-femme et que je ne pouvais pas accompagner les femmes dans une naissance pleinement naturelle.
Et pendant ton premier accouchement, tu as eu l'impression que ta parole n'était pas entendue, tes besoins n'étaient pas entendus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
J'ai l'impression d'avoir été accompagnée de façon très traditionnelle avec une transmission d'informations en fait en permanence. On va faire ci, on va faire ça, ou même pendant la grossesse, la sage-femme qui me préparait, ben il se passe ci, il se passe ça. C'était très factuel. Et tout le plan émotionnel, tout le plan de la construction par rapport à mon identité, notamment au fait que j'étais étudiante sage-femme, c'était complètement squeezé. Maintenant, je fais attention quand j'ai une patiente qui, par exemple, elle-même est soignante ou qui vit une situation pas très classique, par exemple, où il n'y a pas de papa, ou voilà, je ne l'accompagne pas de la même façon que j'accompagne quelqu'un d'autre, parce qu'on a besoin d'individualité, ça manquait clairement d'individualité. Ouais.
Et tu me disais que l'hôpital, évidemment, était un lieu tout choisi et extrêmement rassurant quand notamment il y a des grossesses pathologiques, mm-hmm. et que toi, pour autant, tu avais acquis une certaine intuition des choses et un savoir avec ton expérience de plus de 10 ans maintenant, ta connaissance du corps féminin, de toutes les étapes un peu intangibles finalement qui rythment un accouchement. Est-ce que tu penses que le fait de trop médicaliser les choses, en tout cas de trop rythmer les choses et les expliquer avec des étapes qui doivent se suivre, est-ce que ça enlève un petit peu du côté instinctif et puissant finalement de l'accouchement pour une femme?
L'hôpital brise beaucoup de choses dans le rythme physiologique d'une naissance. C'est jamais anodin quand un accouchement se met en route, que la femme déjà arrive à l'hôpital. Déjà, rien que le fait de venir, on induit déjà quelque chose de négatif, aussi au niveau de la sécrétion hormonale, au niveau de la sécurité. Alors, il y a des femmes pour qui l'hôpital va être un peu l'emblème de la sécurité, qui vont d'ailleurs lâcher prise en arrivant à l'hôpital parce qu'elles vont se sentir en confiance et en sécurité, mais ce n'est pas, à mon sens, la majorité des femmes. On dépossède beaucoup à l'hôpital. Déjà, on uniformise puisqu'on met souvent une blouse. On a une façon de procéder qui, souvent, ne va pas dans le sens de la patiente. Donc c'est important de se poser les bonnes questions à l'hôpital pour justement laisser toute la place à la physiologie. Je comprends de plus en plus que les femmes revendiquent le droit d'accoucher à la maison en sécurité, d'accoucher en maison de naissance, bien accompagnée avec des sages-femmes, parce que justement, là, on retourne dans une prise en charge extrêmement individuelle, centrée sur leurs besoins. L'hôpital, il est nécessaire, il est indispensable, on fait de très belles choses à l'hôpital, mais il faut qu'il y ait quand même une conscience que l'hôpital induit énormément de pathologies aussi. J'en suis absolument convaincue.
Et pour autant, toi, tu as vraiment envie de faire bouger les choses et de rester à l'hôpital parce que tu sens que par ton expérience et ton savoir et tes convictions, tu peux arriver à faire un peu changer les choses et les mentalités.
Si toutes les sages-femmes qui sont convaincues des bienfaits de l'hôpital comme de ces... finalement de ces travers quittent l'hôpital, ben en fait ça ne tient plus. Je travaille avec une équipe de sages-femmes qui finalement est hyper ouverte à ça et très consciente de ça, et c'est justement là où on peut offrir finalement à des femmes qui n'auraient pas accès à ces accouchements déjà en maison naissance ou à domicile, leur offrir les mêmes chances d'avoir une naissance respectée physiologique, parce que finalement les femmes qui accouchent à l'heure actuelle à la maison ou en maison de naissance, c'est des femmes qui ont accès à une forme de connaissances, d'alternatives, donc qui sont branchées sur notamment les réseaux sociaux, qui connaissent les polémiques en cours autour de la maternité. Mais on ne pense pas forcément aux femmes migrantes, allophones, en situation de handicap, qui finalement se retrouvent très vite dans des parcours classiques et qui du coup ont peut-être moins de chances que les autres d'accéder à ce genre de suivi très individuel. Donc, je pense qu'on se bat aussi pour ça à l'hôpital.
Et toi, comment tu travailles alors avec tes patientes? Comment toi, Marie, en tant que sage-femme, tu gardes le pouvoir en fait et tu rends le pouvoir aux femmes? Et comment tu arrives à travailler, aller très très loin dans un accouchement sans faire appel forcément à toutes les infrastructures et toutes les possibilités que donne l'hôpital, évidemment quand la grossesse n'est pas pathologique?
Alors déjà, moi je travaille beaucoup sur la base du projet de naissance qui est de plus en plus réalisé par les couples parce que ça me donne un support de dialogue. En fait, le contenu, clairement, je vais le dire, hein, c'est pas très sympa, mais le contenu, en fait, j'en ai un peu rien à faire parce que très souvent, c'est un peu un menu déroulant du type voilà, salade sans sauce, sans gluten. Voilà, mais c'est une bonne base de dialogue et de discussion avec les couples. Donc pourquoi ça, c'est important pour vous et pourquoi vous m'avez mis que vous voulez pas, je sais pas, moi de perf ou pas de péri ou au contraire, vous voulez absolument une péridurale. Ça me donne déjà un point de départ dans la discussion. Alors ça, c'est chouette quand on a le temps avec l'accouchement, on va dire, démarre à un rythme un peu tranquille parce qu'on a le temps de briser les tabous et de discuter et de faire connaissance. Pour les accouchements où tout va assez vite, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Et puis, en général, en plus de ça, je les laisse vraiment s'approprier le lieu. La salle d'accouchement, je leur dis c'est votre pièce, c'est votre lieu, vous y mettez ce que vous voulez, la musique, on tamise les lumières, on recrée une ambiance cocooning et puis je laisse vraiment les gens s'approprier cette salle. On a de la chance d'avoir des salles d'accouchement qui ne sont pas trop médicalisées, où il n'y a pas trop de matériel visible. Donc ça rend le lieu finalement assez chaleureux. On a une infrastructure déjà qui nous aide bien dans ce sens-là. Donc ça c'est chouette. Et puis au cours du travail, quand j'arrive un peu à cerner ma patiente ou le couple en tout cas, j'essaye de redonner le pouvoir par des phrases qui sont un peu clés, mais que les sages-femmes, on a toutes un peu notre sac d'astuces. Mais souvent, moi, mes phrases un peu type, c'est les femmes enfantent l'humanité depuis que le monde est monde. Enfin, vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous avez ça en vous, vous avez cette force-là, laissez sortir cette force. Vous êtes puissante, vous êtes incroyable. J'utilise beaucoup de mots positifs, même quand il y a de la pathologie, parce que même quand il y a de la pathologie, il peut y avoir plein d'autres choses qui vont bien, il n'y a pas que du négatif à ce moment-là. Et donc tout ce qui est positif, je le prends et je le mets en valeur, je le sublime pour qu'en fait ça prenne la place et puis qu'on reste dans une énergie très positive. La douleur, je la positive énormément. Je dis, vous n'êtes pas en train de mourir de quelque chose de grave, vous êtes en train de donner la vie. Et cette douleur, c'est le lien avec votre enfant. Vous allez y arriver. Et il faut garder cette positivité au moment de l'accouchement.
Oui, parce que l'enfant, il n'a pas de péridurale.
L'enfant n'a pas sa péridurale. On est en connexion par la douleur aussi. Et cette douleur, elle est inconventionnelle. C'est une douleur qui est déjà cyclique, hein, qui revient par vague, qui s'arrête. Entre deux contractions, on a pas mal. Hein. Et ça, c'est un secret à garder pendant tout le travail. C'est entre deux contractions, normalement, tu n'as pas mal. Ouais. Et c'est là où il faut te ressourcer. C'est dans la contraction, tu peux hurler, taper, crier, mordre, tout ce que tu veux. Mais entre deux, tu n'as plus mal. Et l'apaisement, la sérénité revient entre chaque contraction. Puis c'est quelque chose qui aide énormément les femmes de se rancrer dans une sensation de bien-être. Là maintenant j'ai plus mal, là maintenant je suis bien. La douleur va revenir, mais là je suis bien.
Ouais, finalement ça, le fait de vivre son accouchement de manière naturelle, en tout cas sans anesthésie ou sans péridurale, c'est ça, ouais, comme tu dis, ça ancre, ça permet de vivre vraiment le moment présent, d'être en conscience dans ce que tu es en train de faire. Et surtout c'est une telle épreuve que tu en apprends énormément sur toi-même. Et c'est vrai que quand tu as un projet déjà fixé, c'est comme dans la vie en fait, quand tu te dis maintenant je vais faire ça, j'ai un plan, des étapes à suivre, au final tu te prives de ce qui pourrait t'arriver de beau entre guillemets par hasard.
Oui, c'est sûr que peut-être on laisse pas la place à une autre histoire, en tout cas écrire l'histoire différemment quand le plan de naissance est vraiment très 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 carré dans la tête. Alors je parle bien sûr pour les naissances, pour les situations très physiologiques. Et en même temps, je pense qu'il y a une forme de, quand on se conditionne à un certain scénario, c'est aussi que derrière se joue quelque chose de plus important. Et là, je vais peut-être t'illustrer l'idée que j'ai dans la tête par une situation. C'est pas hyper récent, mais ça doit faire un peu plus d'un an et demi maintenant. J'accueille en salle d'accouchement un couple, grossesse toute physiologique, et puis très vite, à peine on s'est dit bonjour, ils me tendent un projet de naissance extrêmement nature, où justement ils voulaient pas de péri, pas de perfusion, pas de toucher, le minimum de toucher vaginaux. Je mets le monito et tout de suite elle me dit mais baissez le son, je veux rien entendre. J'ai dit d'accord, donc je respecte, je vois bien que qu'on est quand même dans une forme de résistance, le contrôle, le lien de confiance, il était clairement pas là. Et puis je voyais bien que j'allais pas réussir à rentrer en contact avec elle. Puis dans le plan de naissance, elle avait notamment écrit qu'elle voulait que je parle à son mari et pas que je lui parle directement. Donc tout ce que je demandais, c'était de façon détournée à son conjoint, qui lui prenait cette place dans le dialogue. Donc bon, j'ai pas eu de soucis pour pour gérer les choses comme ça. Et puis c'était une journée où il y avait beaucoup de travail, donc moi je suis partie au bloc opérateur pour une césarienne programmée. Et je leur avais préparé un bain dans une petite salle avec de la musique, j'ai mis de la lavande, ils étaient tout bien. Et quand je sors du bloc, elle était vraiment mais dans un état de transe, quoi. Et puis bah, quand je l'ai réexaminée, elle était déjà à 7 cm. Donc on est reparti en salle d'accouchement. Et puis elle a fait son travail tranquillement sur plusieurs heures où j'avais aucune interaction avec elle, elle était dans sa bulle. Et puis je continuais à parler à son mari quand il y avait besoin de discuter avec son mari. Et ça a été une très très belle naissance, beaucoup, très en douceur, plusieurs heures après. Et puis j'ai rencontré une femme très différente une fois que l'enfant est né. Et pendant presque une heure, voilà, ils sont rencontrés en famille, je ne suis pas intervenue particulièrement. Et une heure après, on a commencé un peu à discuter, elle et moi. Et puis elle m'a dit, vous savez Marie, cet accouchement pour moi, c'était quelque chose de très très important. Parce que quand je suis née, j'ai été séparée de ma maman. En fait, j'ai dû venir... J'ai été hospitalisée en néonatologie parce qu'elle, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais en tout cas, elle avait souffert de la naissance. Et puis, sa maman n'a pas pu la rejoindre à l'hôpital où elle était, parce que sa maman, visiblement, était aussi, avait eu des complications de la naissance. Et donc, elles ne se sont pas vues pendant pas loin de 10 jours à l'époque. Et elle disait que sa seule angoisse, c'était d'être séparée de son bébé. Et donc, elle voulait une naissance la plus physiologique possible pour justement éviter toutes les complications, par exemple, liées à une césarienne, parce qu'elle, c'était visiblement une naissance par césarienne. Et elle avait aussi fait ce choix de venir en centre hospitalier parce que c'est toujours très étonnant pour moi quand j'accueille un couple qui me dit j'ai un projet hyper nature et ils arrivent en centre hospitalier, le niveau le plus médicalisé qui soit au monde. Je me dis mais pourquoi ils viennent ici s'ils ont un projet ultra nature, c'est pas le lieu bah, idéal pour ce type de naissance, enfin c'est pas comme ça qu'on se projette. Et en fait là elle c'était très compréhensible au final parce que elle voulait justement éviter une séparation avec son bébé, elle savait s'il y avait quoi que ce soit que son bébé il serait en néonatologie et qu'elle serait elle serait près de lui. Et c'est une femme que j'ai revue une semaine après et qui m'a dit Marie, cet accouchement il m'a révélé, je me sens puissante, je me sens guérie, je me sens réparée dans mon histoire. Et j'ai jamais revu une femme aussi rayonnante depuis cette femme. C'était vraiment incroyable. Vraiment, elle était une transformation, clairement une transformation.
Ouais, parce qu'on dit souvent que la première blessure de l'être humain, c'est la naissance, puisque c'est la séparation.
C'est ça.
Donner la vie soi-même longtemps après, ça peut être une manière de réparer.
Complètement.
Ouais.
Alors pour elle, c'était clairement ça.
Pour elle, c'était ça. Ouais.
C'était une réparation.
Ouais. Et est-ce que tu penses que justement la manière de naître peut conditionner en tout cas une personnalité ou je pense peut-être même à Manon, tu vois, qui est très sensible.
Oui, j'ai quand même l'impression que le scénario de la naissance va influer, alors peut-être pas directement sur, peut influer directement sur l'enfant, mais en tout cas sur la mère, et qui va finalement retransmettre un vécu dans les premiers mois et dans toute la vie de son enfant. Donc c'est pour ça que le scénario, c'est pas juste les actes qui ont été posés, ce qui s'est passé réellement pendant l'accouchement, mais aussi ce que toi tu en fais par la suite et comment tu travailles sur ce qui s'est passé. Pour Manon en tout cas, moi j'ai clairement vu l'impact que l'accouchement a eu sur moi et donc sur le lien avec mon enfant. Sur le scénario purement obstétrical, je pense quand même qu'il y a une composante qui est là. Après, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois te parler de ce moment un peu mystique qui s'est passé quand Manon était petite.
Ah ben si. Est-ce que tu peux expliquer déjà que Manon, elle est née donc au forceps, elle a eu la clavicule qui était cassée et qui n'a pas été détectée, donc elle a beaucoup souffert les premiers mois de sa naissance sans que ce soit vraiment compris.
Alors oui, c'est ça, c'était une naissance, en tout cas une extraction difficile. Manon était positionnée en ce qu'on appelle en variété postérieure, donc à regarder le ciel en fait, au lieu de regarder plutôt le sol. Quand le bébé est né, l'idéal, hein, alors bien sûr que ça reste physiologique même s'il n'est pas dans cette position, l'idéal c'est que le bébé regarde le sol au moment de la naissance, donc il passe sa tête sous la symphyse comme un petit pont, et ma petite Manon, elle regardait la symphyse pubienne au lieu de regarder le sol. Donc c'est des bébés souvent pour qui la naissance est un petit peu plus compliquée parce que mécaniquement dans le bassin ça demande pas la même mécanique non du passage. Et puis moi qui avais une péridurale qui fonctionnait trop bien, je sentais pas les pousser. Quand on est arrivé au bout de ce délai de 2 heures et que Manon était toujours dans cette position, qu'on n'avait pas réussi à l'aider à changer de position, bah finalement la solution ça a été le forceps. Là j'ai clairement pas eu mon mot à dire, j'ai été de toute façon hors du temps, hors de moi, je contrôlais plus rien, probablement qu'il y aurait encore d'autres choses qu'on aurait pu faire, mais voilà, j'étais pas en mesure ni en capacité de... j'étais là pour me laisser guider. Et la naissance a été très brutale, donc au forceps Manon a eu la clavicule fracturée et c'est vrai que le premier mois de vie, il a été rude pour elle au niveau de la douleur. Elle a beaucoup pleuré et ça n'a pas été diagnostiqué tout de suite. Donc c'est vrai que c'était une enfant que je ne comprenais pas. Mmh. J'ai mis quand même pas mal de temps à la comprendre. Manon, maintenant qu'elle a bientôt 10 ans, je sens dans son caractère qu'il pourrait y avoir des choses qui sont en lien avec sa propre naissance. Ouais. Et puis pour l'anecdote, du coup, quand elle avait un peu plus d'un mois, elle avait presque 3 mois, on avait fait notre première séance de bébé nageur. Ça s'était super bien passé, elle avait adoré le contact de l'eau, d'ailleurs c'est une enfant qui adore l'eau. Mmh. Et en revenant de la séance de bébé nageur, elle a fait une crise de larmes comme elle n'a jamais refait après, où avec Julien on se regardait et puis on se disait mais en fait elle est comme possédée, on ne savait plus quoi faire, elle gigotait dans tous les sens, elle hurlait, ça a été 2-3 heures de pleurs. Et puis finalement j'ai fini par arrêter de vouloir la contenir et de la rassurer, de la mettre au sein, de faire tout ce que les parents dans ce genre de situation essayent de faire. Et je l'ai posée sur le lit qui était à même le sol, un peu en mode tatami. Donc je l'ai posée dessus et en fait j'ai réalisé que Manon elle essayait de se mouvoir alors qu'elle était encore très petite. Et en fait elle m'a sidérée parce qu'elle est passée du dos au ventre et qu'avec sa tête j'avais l'impression qu'elle refaisait ce que font les bébés à la naissance au niveau de la rotation dans le bassin, de la restitution, et en fait j'ai eu l'impression qu'elle essayait de terminer ce qu'elle n'avait pas réussi à faire. Après ça j'ai essayé de me renseigner un peu à ce sujet. Alors tout le monde connaît un peu le rebirth, la technique de développement personnel où avec une respiration consciente les gens essayent de revivre leur propre naissance, mais je me suis demandé si finalement les bébés le faisaient pas spontanément pour guérir finalement du trauma. Et puis le forceps ça reste quand même, on force ton bébé à faire ce qu'il n'arrive pas à faire ou ce que toi tu n'arrives pas à l'accompagner en tout cas pour finir cette naissance. Et Manon a grandi toujours avec un peu ce truc de je refais ce que j'arrive pas à faire. Donc par exemple si je lui mettais ses chaussures, elle était capable de les enlever pour le remettre elle-même, et en fait elle a gardé ça, et je pense que sa naissance clairement a impacté finalement aussi son caractère.
C'est génial.
C'était une naissance vraiment vraiment rude et on en parle et en fait il y a pas de tabou autour de sa naissance pour aucune de mes pépettes. Il faut parler de ce qui s'est passé, et j'ai toujours dit à Manon avec transparence aussi que moi ça m'avait aussi façonné d'une certaine façon avec elle dans notre lien, et que ça n'avait pas été facile au début. Je lui ai jamais caché. Il faut que ça reste constructif.
Ouais.
Je pense que si c'est parler du scénario pour parler du scénario, c'est pas ok. Mais un enfant a le droit de savoir comment sa venue au monde s'est passée. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose très souvent aux futurs parents. Je dis, vous connaissez, vos parents vous ont raconté comment vous êtes venu au monde, dans quelles circonstances, dans quel contexte. C'est pas anodin. On porte ça en nous. Après, il ne faut pas que ça soit destructeur non plus de ressasser le négatif en permanence. Il faut que justement ça mène du positif. C'est ce que j'essaye de faire avec Manon, c'est de lui expliquer que ce moment-là était difficile, qu'en même temps, ça a été une petite guerrière, qu'elle a su affronter ça dans son petit corps nouveau-né, que cette fracture de la clavicule, elle n'a pas été facile, mais que elle a pu bien grandir, que ça nous a solidifié, ça nous a rapproché, derrière ça doit émerger du positif doit émerger.
Est-ce que tu peux nous parler c'est une notion un peu plus spirituelle, mais du vortex de la naissance, le fait de les différents états de conscience en fait par lesquels on peut passer quand on vit un accouchement physiologique, et du coup quel est ce concept?
Alors j'ai pas le copyright de ce concept, c'est une autre sage-femme d'ailleurs qui parle extrêmement bien de cette notion, qui s'appelle Karine sous le nom Quantique Mama, en tout cas sur internet, sur Instagram, dans ses podcasts. L'idée du vortex de la naissance, c'est un état de conscience modifié qui n'est pas notre état de conscience habituel. Quand on accouche, on déconnecte notre cortex. Donc tout le cerveau, finalement toute la partie cérébrale où on va être vraiment dans quelque chose de raisonné, de contrôlé, pour finalement arriver dans une autre dimension de soi, où justement il y a une perte de contrôle totale. L'hôpital n'aide pas à ça. Mmh. Voilà, donc on est une sage-femme qui recrée finalement un environnement avec une sécurité émotionnelle qui permette finalement de se déconnecter et puis de se laisser embarquer complètement dans ce vortex. Les états de conscience, nous, on le perçoit, en fait, que la femme traverse différents voiles au fur et à mesure que l'accouchement progresse. L'idée, c'est de la laisser dans cet état, parce qu'on a toujours tendance à vouloir les ramener, à trouver que c'est pas normal, finalement, qu'on perde conscience. Et en fait, c'est salvateur, hein, pour supporter la douleur. Alors déjà, rien que par le travail des endorphines, hein, parce qu'on sécrète des hormones pendant l'accouchement qui sont des antidouleurs naturelles. Et on a des patientes vraiment qui ont les pupilles dilatées, qui sont comme sous drogue, naturellement, sans aucun médicament. Et ça, c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux à voir. Il y a plein de choses qui peuvent aider finalement à plonger dans cet état de conscience modifiée. Et moi, un élément que j'utilise beaucoup, c'est l'eau, le retour à l'eau, donc le bain. Les patientes, je les remets quasiment systématiquement dans l'eau si elles ne sont pas réfractaires à l'idée. Hein. Bien sûr, il faut avoir envie de le faire. Mais le bain recrée une sensation de pesanteur, recrée une sensation de bien-être entre les contractions qu'on n'a plus forcément quand on est en apesanteur, quand on est plus justement on est en pleine gravité sur Terre, et l'eau ramène ramène à l'élément fondamental de la naissance.
Bah l'eau, et puis c'est symboliquement c'est l'inconscient, l'eau.
Complètement. Complètement.
Et est-ce que tu saurais nous expliquer ces différents états de conscience modifiés qu'on peut traverser pendant ce travail?
Alors, dans la première phase de l'accouchement, bah, Karine, notamment, elle parle de l'embarcation. On l'entend souvent sous le nom de pré-travail, plus injustement de faux travail. Mais toute cette première phase où l'accouchement se prépare, la femme, elle est encore en capacité de faire toutes les actions du quotidien. Donc, elle va pouvoir gérer, par exemple, les enfants, s'organiser. Elle va pouvoir dire à son mari ce qu'elle doit prendre pour aller à la maternité. À la maternité, elle va être encore dans un dialogue très construit. Et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, elle va perdre le côté rationnel. Donc, elle va plus te dire... d'ailleurs, elle va même plus réussir à nommer la douleur. Donc, même par rapport à la douleur, elle va plus te dire j'ai mal là, mais là elle va partir dans quelque chose de très émotionnel, j'en peux plus, je vais mourir, voilà, c'est des phrases qu'elles vont pouvoir te dire, et plus la douleur me fait mal là, enfin voilà, on se décentre, on part à un autre niveau. Donc c'est comme si les femmes quittaient petit à petit leur corps. Donc dans le pré-travail, elles sont encore très ancrées en elles-mêmes, et petit à petit il y a un détachement, une élévation. Jusqu'au moment finalement de la dernière phase, vraiment de la phase expulsive, où la femme commence à pousser, à avoir une envie de pousser, où là elle se décuple, l'énergie devient presque animale, et puis en fait elle est plus dans son corps, clairement elle est plus dans son corps. Oui, je pense qu'il y a une forme de sortie de soi, en fait. Les femmes se voient de haut, elles disent des fois qu'elles étaient plus dans leur corps.
Et tu sais s'il y a s'il y a une résonance avec les ondes justement du cerveau?
Ça, je saurais pas te dire. Moi, on va dire que je l'observe de façon très, très technique. Ouais. J'ai pas ce savoir. Ouais. J'ai pas ce savoir. Okay.
Après, Manon, tu as eu une deuxième petite fille, Cléo.
Oui, c'est juste.
L'accouchement a été assez différent puisque tu as accouché en plateau de naissance. Est-ce que tu peux nous parler de des différences un peu entre tes deux grossesses et de la manière dont tu les as vécues? Et surtout, tu me disais que tu avais été, pour cette deuxième grossesse, cette deuxième accouchement, tu avais été à 100% dans ton féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Alors déjà, pour cette grossesse, j'avais qu'une seule exigence, c'était que je sois suivie par une sage-femme, la même, enfin les deux, parce que du coup en plateau technique, très souvent tu es suivie par deux sages-femmes, puisqu'elles ne peuvent pas être de garde nuit et jour pour des raisons logiques. Et c'était extrêmement important pour moi que les professionnels qui m'entourent au moment de la naissance de mon bébé me connaissent vraiment intimement, et que je ne sois pas obligée de réexpliquer à chaque fois, notamment le vécu que j'avais eu pour Manon et les difficultés que j'avais rencontrées. J'avais pas d'attente. Si ma sage-femme me disait Marie, il faut faire une césarienne sous anesthésie générale, j'aurais dit amen. J'aurais vraiment dit amen. Mais j'avais besoin d'être entendue, reconnue et accompagnée pour ce que j'étais vraiment. Que ce lien se tisse. Moi, je suis convaincue que les femmes, elles ont besoin de liens entre elles pendant la grossesse, pendant l'accouchement, même pour l'après. Hein. On parle pas du postpartum, mais le postpartum. Et la phase, à mon sens, où on devrait encore plus être en connexion les unes les autres. Mais c'était ma seule exigence. Et c'est vrai que Le fait d'avoir pu être accompagnée par cette sage-femme qui me connaissait par cœur, ça a amené beaucoup de fluidité au moment de la naissance de Cléo, parce qu'en fait, j'avais pas besoin de parler, qu'elle savait. Mmh. Elle savait ce que je traversais, elle savait à quoi je pensais. Et d'ailleurs, le seul moment de la naissance où un moment j'ai pensé éventuellement à une péridurale, je me souviens très bien de ce moment. Et ben en fait, j'ai même pas dit prononcer le mot. Et en fait, Manuela, ma sage-femme, m'a regardée, elle a mis sa main sur ma tête, et elle m'a dit Marie, tu n'as pas besoin de péridurale. Et là, je me suis dit waouh. Clairement, bah voilà, tu peux pas faire ça avec une femme que tu connais pas. Non. C'est parce qu'on a, on a passé 9 mois à se découvrir, à se connaître, qu'elle a su à ce moment-là, dans mes yeux, elle a lu que j'y ai pensé. Mmh. Et ça n'a aucun prix. J'ai eu l'impression d'avoir une naissance ultra respectée, même si ça a été très compliqué, puisque le scénario s'est reproduit, Cléo s'est mise dans la même position que sa sœur. Donc une phase expulsive extrêmement longue où j'ai poussé presque, je crois, pas loin de 2 heures. Voilà, j'étais hors de moi, j'étais dans un état de conscience extrêmement modifié, mais avec beaucoup de bienveillance et d'accompagnement de la part de Manuela. Si moi, en tant que sage-femme, je devais parler de cet accouchement, je dirais que c'était horrible. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en tant que femme, je peux dire que c'était absolument génial. Et c'est là où il faut faire attention quand on parle du vécu de la naissance, parce qu'on peut avoir, nous, une représentation. Moi, je peux trouver qu'un accouchement est génial pour une patiente et que la patiente me dise que c'est absolument horrible ce qui lui est arrivé. Ouais. Et il y a autant de vécu qu'il y a de femmes. Et je perçois pour moi, puisque bah, je pourrais très, vraiment, vraiment dire hein, que le scénario ne faisait vraiment pas rêver, mais que d'un point de vue du vécu, moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Je le revivrais 500 fois s'il fallait.
Oui, puis il y avait un vécu impassif, c'est-à-dire que pour toi, c'était aussi une réparation de ton premier accouchement.
Complètement. Et une réparation doublement, ben, parce que le scénario s'étant répété, j'ai bien vu que
c'était pas la faute de l'hôpital.
C'était pas la faute de l'hôpital. Que l'hôpital, il a le bon dos aussi. Hein. Ouais. On l'accuse de beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont liées à soi-même, à son bébé, et des choses sur lesquelles on n'a absolument pas de prise. Ouais. Et donc, j'ai été dans une réparation complète de ce qui s'était passé. Et
donc là, tu t'es sentie en pleine puissance de tes moyens.
Révélée à moi-même après l'accouchement, je me suis sentie mais d'une force et d'une énergie comme ça m'était jamais arrivé avant. Et en fait, presque, t'as plus peur de rien, en fait, après. Il pouvait se passer n'importe quoi, j'étais prête. Ouais. J'étais prête.
Ce lien que tu as réussi à créer avec Manuela, je trouve ça magnifique. Et en même temps, quand tu me racontes les accouchements que tu fais, à chaque fois, j'ai cette image de femme médecine qui me vient, de chamane en fait, presque, qui arrive à savoir intuitivement ce dont sa patiente a besoin, qui arrive à lire dans ses yeux. Ça, c'est quelque chose que tu t'as développé avec ton expérience.
Oui. Oui, alors ça, il n'y a que l'expérience qui... À force de voir, d'observer, de comprendre ce qui se passe, ou ce savoir intuitif, finalement, il devient presque naturel. C'est quelque chose de difficile à enseigner, par exemple, quand on a des étudiants de sage-femme. Des fois, je leur dis, bah, en fait, je sais, mais je ne sais pas pourquoi je sais. Ouais. Et c'est vraiment la définition même de l'intuition.
C'est spirituel.
Mais tu ne sais pas expliquer pourquoi. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas scientifique pour autant. C'est qu'à force de voir des situations, à force de rencontrer des couples, il y a des choses très subtiles qu'on emmagasine. Et en fait, on fait tellement de liens qui ne sont pas explicables que ce savoir, qui est un vrai savoir, ben, il est très intuitif. L'accouchement, ça c'est pas de moi, hein, pareil, hein, mais c'est de Julie, qui est notre sage-femme chef de la salle d'accouchement, qui m'a un jour fait comprendre que l'accouchement était avant tout une science humaine avant d'être une science médicale. On a voulu normer de façon très biomédicale hein, l'accouchement, mais en fait l'aventure de la naissance, c'est avant tout une science humaine. Et pour ça, J'ai une situation emblématique qui est relativement récente, hein, ça doit faire 3 mois. J'ai accompagné une patiente qui a accouché de son 6e enfant. Et cette patiente ne parlait pas français, on avait quand même du mal à se comprendre, c'était pas tout simple. Elle est revenue consulter peut-être 3 ou 4 fois en salle d'accouchement pour des contractions. Elle avait peur d'accoucher très vite chez elle. En plus, en période bah, qu'on connaît de période de crise sanitaire, ils n'avaient pas trop de moyens de garde. Donc son mari ne pouvait pas être là à la naissance, il devait garder les autres enfants à la maison. Enfin, beaucoup de stress absolument légitime hein, pour cette future maman. Et du coup, elle venait consulter quasiment tous les soirs pour ses contractions. Et puis un soir, le deuxième soir, moi c'était ma deuxième garde de nuit, donc je l'accueille, on refait le tour, j'avais strictement la même chose que la veille, donc elle contractait de façon régulière, le col était sensiblement le même, et puis j'étais désemparée pour accompagner cette maman qui, elle, était dans un état d'angoisse hyper important. Et puis elle me disait, j'ai trop peur d'être chez moi, de perdre les os, d'accoucher à la maison, je le sens, j'ai trop peur, je peux pas. Puis des fois je me dis, mais si nous on écoutait toutes les mamans qui nous disent qu'elles craignent que ça aille trop vite, qu'elles aient pas le temps d'arriver, que d'un coup le rythme de l'accouchement change, bah on garderait presque tout le monde. Voilà, et on peut, l'hôpital ne peut pas faire ça, enfin, c'est pas possible. Et là, ce soir-là, j'ai discuté avec mes collègues qui étaient hyper bienveillants, on avait une activité assez calme, et puis je sentais que c'était important pour cette femme qu'on la garde et qu'on l'entende dans son histoire. Donc je lui ai proposé de la garder la nuit, qu'elle se repose, qu'on ferait rien de plus, qu'on provoquerait pas l'accouchement, parce que souvent il y a une demande derrière, c'est que finalement on induise le démarrage pour que bah, ça soit fait, quoi. Ouais. Qu'on soit plus dans cette attente-là, surtout quand les mamans elles ont eu déjà plusieurs enfants. Et puis on n'a pas cette philosophie, même à l'hôpital, on essaye d'éviter au maximum de provoquer les accouchements quand il n'y a pas de raison médicale pour la maman et l'enfant. Et puis du coup je l'ai installée dans une chambre tranquille, je me souviens que je lui ai fait une petite tisane, je l'ai installée, et puis au moment où j'éteins la lumière, j'entends qu'elle se fait un petit soupir de soulagement, tu vois, du type comme ça. Et à ce moment-là j'entends oh! Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, ça va? Et en fait elle venait de perdre les os, et ben, 35 minutes après elle avait le bébé dans les bras. Et je me suis toujours dit que c'est parce qu'on l'avait entendue, ouais, qu'elle avait pu enfin dire « Ok, je suis en sécurité, il me garde maintenant, je ne vais pas être obligée de rentrer à la maison », qu'elle s'est posée dans son lit, elle s'est relâchée, elle s'est dit « Ça y est, je peux accoucher, ouais ». Et paf, elle a accouché. 35 minutes après, c'était plié. Et elle avait raison. Ouais. Elle avait raison. Les femmes ont toujours raison, mais elles ne sont juste pas entendues.
Ouais. Ou elles ne s'écoutent pas elles-mêmes.
Elles ne s'écoutent pas ou elles ne sont pas entendues, ouais, c'est juste.
On parlait de la dimension spirituelle donc de l'accouchement et de son côté très intuitif et en même temps bah, intangible, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire dans les livres et que tu sais intuitivement quand tu rentres dans une salle d'accouchement comment les choses vont se dérouler, ce dont la maman a besoin. Et il y a des cas où tu as des familles qui arrivent et qui, de par leur croyance religieuse, refusent toute forme d'intrusion, de suivi médical comme une perfusion ou voilà, quelque chose qui pourrait sauver la vie de la mère ou de l'enfant. Oui. Des fois, tu t'es retrouvée voilà, dans des cas très très particuliers. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment vous réagissez et dans quelle est la limite en fait du respect des croyances religieuses des familles et de ton rôle à toi de sage-femme, surtout dans un milieu hospitalier? Oui.
C'est toujours un point extrêmement complexe quand on est face à ce genre de situation. Déjà, il faudrait qu'il n'y ait pas de rupture de confiance. C'est, je dirais, le point essentiel. Donc, on doit confronter les visions de façon bienveillante, d'entendre en fait que les autres ont une autre réalité, mais que nous, à l'hôpital, on est là, bien sûr, pour assurer une sécurité pour la santé de la mère et de l'enfant, et que c'est très très difficile, nous, de lâcher prise quand on a des couples qui décident de laisser faire au prix de la vie de l'un ou de l'autre. Heureusement, ça arrive assez peu souvent. Hein, je ne veux pas dire que c'est quelque chose de fréquent. Et parfois, c'est arrivé qu'on doive nous prendre une forme de pouvoir que je trouve toujours... c'est une décision toujours très difficile à prendre. Mais par exemple, ça arrive en néonatologie notamment qu'on doive enlever temporairement l'autorité parentale du couple pour que l'hôpital prenne une décision pour le bien-être de l'enfant et puis ensuite restituer, on va dire, l'autorité parentale à la famille. L'idée, c'est pas quelque chose de définitif.
Ouais, mais toi, ça t'est déjà arrivé de réveiller en pleine nuit un juge pour
Alors, heureusement, c'est pas moi qui appelle le juge, hein, mais c'est... Oui, c'est des situations qui arrivent malheureusement à l'hôpital et c'est la confrontation entre je laisse faire la nature ou ma croyance, ma doctrine me le dicte, et puis en même temps la réalité de l'hôpital où nous on est quand même là pour avant tout assurer une sécurité et notamment la sécurité des enfants qui n'ont rien demandé. On part du principe qu'un enfant il a rien demandé à venir au monde, il a rien demandé à souffrir de ce qui est en train de se passer, et donc on estime qu'à un moment on doit prendre cette décision là. C'est extrêmement complexe quand on doit arriver à ça.
Et toi, et dans cette situation là il s'était passé quoi, enfin, quel était le sujet en fait pour l'enfant?
C'est que l'enfant avait besoin d'un traitement et que si on lui administrait pas le traitement, en fait, il allait en mourir.
Et les parents l'acceptaient totalement.
Okay. Voilà. Et c'est des situations complexes. Alors en tant que sage-femme, on n'est pas forcément directement lié à ce genre d'événement. Nous, c'est plutôt pour les patientes qui refusent par exemple un geste ou le consentement reste fondamental. Hein. Il n'est pas question de revenir à la notion de consentement. On va dire que le consentement éclairé, il faut qu'on ait quand même l'impression que les gens comprennent ce qu'on est en train de leur raconter et que si on dit que nous, on pense qu'il faut faire ce geste-là, c'est que on le fait pas par gaieté de cœur. Hein. Alors ça va du geste, on va dire, très connu du grand public. Nous, c'est souvent la discussion autour de l'épisiotomie. Hein. L'épisiotomie, on ne la fait pas de gaieté de cœur. Je ne connais pas un médecin ou une sage-femme qui le fait avec plaisir. À chaque fois que je dois en faire une, je crois que mes tripes se tordent, mes intestins se retournent, mon cœur se serre. Enfin, c'est pour moi une mutilation. À chaque fois, j'ai aucun plaisir à faire ce geste-là. Je dis souvent à mes patientes, mais c'est sûr que nous, on ne le fait pas avec plaisir, ça nous donne plus de travail. Je ne vois pas pourquoi on aurait du plaisir à faire des césariennes ou à faire des épisio à tout va, parce qu'il y a un bénéfice pour personne, en fait. Hein, à part pour l'enfant, si on doit vraiment en faire une, parce qu'il est temps qu'il naisse et qu'on ne peut pas s'accorder 3 minutes de plus. Mais ces gestes-là, on ne le fait pas par plaisir, jamais. Jamais. L'hôpital souffre encore des systématiques de soins qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, parce que ces gestes, ces épisiotomies, on les faisait de façon non réfléchie. Pour chaque accouchement, les procédures, elles étaient appliquées à chaque femme sans tenir compte de leur individualité. Je crois qu'on est sorti vraiment de ça dans les nombreux endroits où je suis passée, que ce soit bien en stage ou en tant que sage-femme. Il n'y a pas un endroit où je me suis dit qu'on travaillait de façon systématisée. Mais les femmes viennent à l'hôpital encore avec cette crainte-là qu'on va faire des choses non nécessaires. Je pense qu'on fait du zèle. Des fois, je pense qu'on a peur. La culture du risque, elle est compliquée à l'hôpital. On a tous une vision du risque différente. Il y a des femmes pour qui venir à l'hôpital, c'est un risque énorme. Il y a des femmes pour qui accoucher à la maison, c'est un risque énorme. Je crois qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est chacun a sa propre culture du risque et on essaye d'être mesuré. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à être mesuré.
Donc on se dirige doucement vers le thème du deuil périnatal. Toi, tu es sage-femme, tu accompagnes la naissance, mais tu accompagnes aussi la mort.
Oui.
Il y a une dimension quand même très spirituelle dans ce thème. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet et comment toi tu accompagnes tes patientes, comment toi tu vis ces moments-là aussi en tant que sage-femme et femme?
Alors c'est des situations que j'ai appris, alors je mets des guillemets parce que ça peut être extrêmement mal interprété, mais c'est des situations que j'ai appris à apprécier avec le temps. Maintenant j'ai du plaisir à accompagner les couples là-dedans, non pas parce que j'ai du plaisir à aller voir traverser un moment difficile, mais c'est des situations où moi je me sens pleinement sage-femme. C'est pour ça qu'il faut trouver du plaisir quelque part, parce que sinon c'est intolérable pour tout le monde de traverser ça ensemble. Donc je me sens pleinement sage-femme parce que souvent dans ces situations de deuil périnatal, il n'y a plus d'enjeu pour la santé de l'enfant, malheureusement. Et on est sur des considérations extrêmement émotionnelles. On est là pour une sécurité émotionnelle. On est là pour que l'accouchement se passe le mieux possible, parce que de toute façon, il n'y a plus d'enjeu pour l'enfant. Donc on est vraiment à l'écoute au plus profond de ce que ressent la femme. Et c'est pour ça que j'ai appris à aimer ces situations-là. J'ai l'impression qu'on a le temps, que l'hôpital justement qui est très chronométré, où des fois on doit être un peu pressé par le temps, où il y a une forme de stress lié à l'activité, dans ces situations-là tout s'efface en fait, où on est centré uniquement sur le couple qu'on accompagne, et ça c'est précieux. D'un point de vue spirituel, j'ai jamais trouvé de sens à ce qui se passait. Pour moi, c'est toujours une aberration quand des parents perdent un bébé. Ça reste une aberration de la vie, de la nature, mais c'est la nature, et la nature, on ne sait pas toujours pourquoi elle fait les choses. Des fois, on a des explications, des fois, on n'en a pas. Les parents, s'ils ont une spiritualité, je m'accorde à la leur. Moi, qui n'ai pas spécialement de croyances religieuses, je me suis fait ma propre... je me suis fait ma propre spiritualité à ce sujet. La mort ne me fait pas peur. Et puis, ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est que les bébés sont tous les mêmes, qu'ils naissent vivants ou pas vivants. Pour moi, ça reste un enfant. Ça reste un enfant qui a été incarné d'une vie. Ça reste un enfant qui a partagé des choses avec ses parents in utero. Et il a le droit à autant de respect, d'amour, de bienveillance qu'un enfant qui naît vivant. Donc, je mets beaucoup de tendresse, on va dire, à s'occuper de ces bébés-là. Et je sais que c'est pareil pour toutes mes collègues. On a une formidable équipe qui est formée au deuil périnatal. Et j'ai beaucoup appris par mes collègues, et j'ai appris à plus avoir peur de ça, en fait. Et je crois que quand t'as plus peur de ça, tu peux accompagner vraiment les parents en toute entièreté. Et j'arrêterai jamais. Il n'y a jamais une fois où je me suis dit c'est la fois de trop. Alors parfois c'est compliqué quand toi t'es un peu plus fragile sur le plan émotionnel. Là, récemment, quand j'ai traversé un deuil qui a été difficile, je sentais que j'étais pas la même qu'avant. Mais il faut avoir conscience de ça, et puis d'être...
Se l'autoriser.
Ouais, exactement, se l'autoriser, être en congruence avec ce que tu es toi. Et puis, ne pas cacher les émotions. Moi, il y a des parents, je leur dis, là, si je vous dis une phrase de plus, je vais pleurer. Ouais. Je vais pleurer avec vous. Il faut que je sorte juste un moment. Enfin, je ne me cache pas de ce que je peux ressentir. Je ne dois pas être une armoire à glace face à ce drame qui est en train de se jouer dans la salle d'accouchement. Donc, je crois que pour toute situation, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, il faut que les parents sentent qu'on est congruente entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Et je ne m'en cache pas. Et c'est ce qui fait que je crois que ces situations-là, j'arrive à bien les vivre.
On va conclure sur une note un petit peu plus légère et je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur et sur lequel tu as beaucoup de choses à dire. comment on arrive en tant que femme à réussir à se détacher des attentes que la société a envers la maternité ?
Alors là, je ne sais pas s'il y a une stratégie, une recette en tout cas pour se détacher des attentes. Mais dans la maternité, il y a beaucoup à faire. Hein. Déjà parce qu'on nous a vendu un modèle qui, à mon avis, ne s'applique pas à toutes. Alors, moi, personnellement, j'ai eu l'impression que la représentation que mes parents m'avaient donnée de la maternité et de la famille était finalement celle que intérieurement, j'avais envie de porter. Donc, c'est OK. Je suis en toute congruence avec ça. Mais j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas ni le schéma, ni le modèle que tous les couples, toutes les femmes... Enfin, c'est pas le modèle auquel tout le monde a besoin de s'identifier. Et je crois qu'on doit entendre la voix de ceux qui disent qu'ils ont envie de faire différemment. C'est important aujourd'hui de ne pas appliquer un modèle unique. Alors aussi bien pour le modèle familial, hein, parce que ça, c'est une grande discussion aujourd'hui. Il y a autant de familles qu'il y a de... Il y a autant de modèles finalement qu'il y a de familles. Hein, il n'y a pas un standard. Moi, je pense qu'on a eu aussi dans notre famille une vision un peu alternative de ce schéma familial. C'est très individuel. Et puis dans la maternité, encore plus, parce qu'on nous vend la maternité comme quelque chose d'idéal, de rêvé, un aboutissement de soi. Et je pense que c'est une énorme erreur parce que la maternité peut être aussi destructeur qu'elle est révélatrice. J'accompagne des femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants, qui se retrouvent à mener une grossesse dont elles n'avaient pas envie, à être mère alors qu'elles n'en avaient pas envie. D'autres réalisent qu'en fait, ce rôle de mère leur convient. Et puis il y en a d'autres qui avaient envie au fond d'être mère et quand elles découvrent ce que c'est la maternité, elles se disent « Mais oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai voulu ça ?» Et peut-être que ce qui m'a poussée à être mère, c'était finalement de mauvaises raisons. Donc je pense qu'il faut enlever de la pression et de dire qu'il n'y a pas une façon d'être mère, il n'y a pas une façon de fonder une famille. Je crois que ce qui doit nous guider au quotidien, c'est une forme de bienveillance, que nos enfants d'aujourd'hui, en tout cas, sont les adultes de demain. Et qu'on doit les faire grandir dans la plus grande bienveillance possible, loin des schémas standardisés. Ça, c'est une évidence. Si on veut que notre monde aille mieux, c'est si on prend soin de nos enfants aujourd'hui. C'est pour ça que la maternité, c'est important, la paternité, c'est important, qu'on doit entendre les gens, en tout cas, qui ont des visions alternatives. Alors, je ne suis pas la meilleure placée pour en parler parce que je reste quand même dans le schéma assez traditionnel. Hein. Papa, maman, deux enfants, couple hétérosexuel. J'ai bien conscience que ma voix n'a pas le poids. Mais il faut que les gens qui portent des valeurs différentes continuent de crier haut et fort qu'ils ont toute leur place et que les femmes qui vivent la maternité de façon différente et en tout cas pas aussi épanouie que j'ai eu la chance de vivre par exemple, elles puissent dire mais en fait ça peut être aussi l'enfer et la maternité peut être l'enfer et de l'amour à l'enfer il peut se passer très peu de temps, très très peu de temps. Avoir un enfant ça reste une épreuve pour soi, c'est une nouvelle naissance de soi, cette transformation elle s'opère plus ou moins bien, il y a des femmes qui s'épanouissent complètement dans ce rôle et d'autres qui se perdent parce que trop d'injonctions, trop d'exigences, on doit être parfaite sur tous les plans, on doit en même temps être carriériste, on doit en même temps être une amante douce, organisée, on doit avoir du temps et de la bienveillance pour ses enfants et en fait à un moment il faut faire des choix, on peut pas, c'est pas possible, moi je me retrouve pas du tout là-dedans, je crois que c'est impossible. Tu deviens folle, tu deviens barjou, moi je n'ai jamais rencontré une femme qui arrive à remplir toutes ses coches. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Il faut se rancrer dans l'instant, se dire de quoi j'ai envie là maintenant pour moi, pour mes enfants. Alors c'est sûr qu'il y a toujours une question de compromis, il y a toujours une question de priorité. Mais en tout cas, il ne faut pas étiqueter la maternité et pas l'ancrer dans un schéma de la femme heureuse, épanouie, avec des cheveux magnifiques, qui allait de son bébé en public parce que c'est génial d'allaiter en public. Non, en fait, tu peux... tu peux ne pas avoir envie de ça, tu peux aspirer à autre chose, tu peux te dire que tu as envie de retourner au boulot parce qu'en fait, le boulot, c'est ce qui te tient, c'est ce qui te passionne dans ta vie. Ou alors décider de prendre un congé parental de 2 ans parce que tu as envie d'élever tes enfants de façon alternative. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. En fait, il faut faire les choses en congruence avec ce qu'on est. Et pour savoir, en fait, pour connaître ces congruences-là, il faut savoir ce qu'on a vraiment envie. Et je pense qu'on n'a jamais appris aux femmes à savoir ce qu'elles avaient vraiment envie au fond d'elles. Moi, j'ai eu cette chance parce que tout a été évident. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde.
Aux femmes ni aux hommes, d'ailleurs.
Oui, complètement. Complètement. Alors, j'ai moins l'occasion de parler avec les hommes en profondeur. Souvent, j'ai ce temps avec les femmes, mais moins avec les conjoints, ouais, avec les partenaires de vie, quels qu'ils soient. Mais en fait, on ne nous apprend pas à nous écouter. Non. On ne nous apprend pas ça. On nous dit il faut suivre tel schéma et en même temps, d'un coup, il faut que tu t'écoutes. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, c'est maintenant qu'il faut apprendre aux enfants à s'écouter, à écouter leurs envies, à écouter ce qu'ils sont, pour que, justement, en tant qu'adultes, ils puissent faire des choix responsables en accord avec ce qu'ils sont et non pas
passer.
Exactement, et pas une vie faite d'injonctions permanentes.
Ben, je pense que ce sera le mot de la fin parce que c'est parfait.
Merci beaucoup, Marie. Merci, Clélia. C'était un plaisir.
On était en pleine nature, là, dans la forêt, avec les oiseaux qui chantent.
C'était parfait.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.
Non, ne va pas labourer le champ d'à côté, s'il te plaît.
Laisse-moi finir. Il va loin, il a un champ plus loin,
ah,
lui.
Ça va.